Ah, Michel Lebris va arriver, hein, je le dis pour... ne vous inquiétez pas. On va quand même commencer un petit peu avant lui. C'est vrai qu'on était un peu en train de discuter avec Johan et Stéphane, et bah, on va rajouter Fabrice et puis Michel quand il va arriver à la conversation. Mais on va parler maintenant des flibustiers, et c'est vrai qu'on se faisait la remarque... bah, des références un petit peu aujourd'hui qu'on pouvait avoir dans ce domaine des flibustiers, parce que c'est un genre qui a été extrêmement populaire à une époque, que ce soit en littérature, au cinéma, etc. Et puis, bah, ça fait partie de ces genres comme ça, sans qu'on sache vraiment trop pourquoi, qui un jour disparaissent complètement. Et bah voilà, est-ce qu'aujourd'hui, le public de vos lecteurs a les références finalement qui font que. Les mêmes références qui font que vous, auteur, vous avez rêvé en lisant ces histoires de flibustiers, Johan.
Alors oui, et ce qui est venu spontanément à l'esprit, bon, quand on écrit ce genre d'histoire, enfin, même si ce n'est pas de vraie piraterie mes livres, mais on en reparlera peut-être, c'est évident que pour les plus jeunes lecteurs, s'il n'y avait pas eu Pirates des Caraïbes, d'ailleurs les flibustiers étant les pirates des Caraïbes, une certaine vogue, sans jeu de mots, n'aurait pas été relancée là autour. Mais maintenant, pour ce qui me concerne, moi j'ai rêvé, gamin et adolescent, devant La Dernière Séance, et devant Errol Flynn, Stewart Granger et autres, ces films de l'âge d'or d'Hollywood, ou un peu plus tardif. Voilà, moi c'était ma première rencontre avec cet univers-là. Ensuite, c'était la bande dessinée, c'était Rackham le Rouge, bien sûr, c'était Barbe Noire, Vincent Bande Dessinée, etc. Et quand je m'y suis réintéressé pour aborder ces thèmes, même en les mêlant à de la fantasy et autres dans mes bouquins, j'essaie d'aller voir à la source, enfin en m'approchant de la source. J'ai commencé par exemple par dévorer, j'avoue avec un plaisir jubilatoire, les visages de corsaires de Roger Vercel, que j'ai trouvé formidable. Et ensuite, je suis allé voir les bouquins, les rééditions de mémoires ou de souvenirs de vrais marins, alors au sens large. Qu'elle soit vraie ou fausse, c'est-à-dire, bon, à mon avis, je pense que Michel Lebris me corrigera, les fameux mémoires ou carnets du capitaine Johnson qu'on attribue à Daniel Defoe, je crois, et qui sont vraiment, voilà, j'avais un doute, voilà, bon. Mais après, voilà, je me suis plongé.
Qui était le plus grand menteur de son époque, voilà, ouais. Ce qui a perturbé les historiens quand ils se sont aperçus que c'était lui. Pendant des siècles, il s'était appuyé sur ce bouquin-là.
Voilà, c'était une sorte
d'un
de.
D'un coup, là, il y a eu un léger flottement. Chez les historiens, effectivement.
Mais voilà, ensuite, je me suis plongé dans ces littératures-là pour m'imprégner moi-même de ce véritable univers, ensuite.
Stéphane, c'est le même un peu la même idée ?
En fait, oui, puisque on a à peu près le même âge, donc on a regardé à peu près à la même heure la dernière séance.
Voilà, c'est ça, on vient juste de se rajeunir de 25 ans, ou de se vieillir de 25 ans.
Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose au cinéma qui concerne la piraterie, les pirates depuis pas mal d'années. On citait tout à l'heure Master and Commander, qui n'est pas vraiment un film de pirate, qui est comme un film d'aventure picaresque et maritime. Il y avait le Pirate de Polanski, qui est un petit peu vieux maintenant aussi. Pirate des Caraïbes, c'est à peu près tout. Bon. Mais l'avantage, par contre, de la figure du pirate, c'est que c'est une figure qui est rentrée dans l'imaginaire collectif. Donc, il n'a pas besoin d'être dans l'actualité pour être réveillé très très vite. C'est le gros avantage de cette figure-là.
On a tous notre vision d'un Long John Silver dans l'esprit, quelque part.
Il y a eu un Long John Silver récemment, par contre, il me semble, non ? Ou en bande dessinée, peut-être ?
Film d'animation, non ?
Non, il y a un film, un vrai, je ne sais plus de qui, mais qui est une sombre...
C'est une sombre, d'accord.
On avait fait l'oublier, alors. Fabrice, même question, même génération aussi, donc même cheminement.
Ouais, mais je rejoins tout à fait ce que dit Stéphane sur la réactualisation du mythe. Moi, j'ai un gamin de 5 ans et à l'école, bon, il joue aux pirates. Alors bon, c'est vrai que là, c'est un peu Jack Sparrow, la figure dominante. Mais finalement, on a l'impression que oui, c'est presque dans les gènes, quoi. On n'a pas besoin de leur expliquer ce que c'est un pirate. En tout cas, l'imagerie, voilà, un beau jour, il revient. Et puis voilà, c'est pas pareil. On joue aux pirates et voilà, c'est assez immédiat. Donc moi, je suis partagé hein, sur Pirates des Caraïbes parce que bon, il y a beaucoup à dire, mais en même temps. C'est vrai que ça a remis ce truc au goût du jour. Il y a eu un film aussi, c'est marrant, de Rémi Harlin, je crois, qui s'appelait
avec Gina Davis,
ouais,
et Matthew Modine,
qui a failli couler les studios, ouais. Enfin, qui a mis le réalisateur Tricard pendant 10 ans. Et c'est marrant comme quoi, parce que le film n'était pas vraiment plus mauvais que Pirates des Caraïbes, on va dire.
Mais en fait, par contre, pardon, je te coupe.
Ouais, vas-y.
Le Pirates des Caraïbes, c'est vrai que la figure du pirate appartient à l'imaginaire collectif, mais il n'a jamais cessé d'être populaire aux États-Unis. En France, il avait peut-être un peu disparu, mais ne serait-ce que par rapport à Disney World, par exemple, Pirates des Caraïbes n'est que l'application d'une animation très connue de Disney. Et là, aux États-Unis, le pirate...
où on retrouve d'ailleurs finalement tout ce qui fait l'univers...
L'iconographie du pirate hollywoodien.
Oui.
Cette animation-là fait que cette figure est demeurée, et les gamins continuent effectivement à jouer aux pirates aux États-Unis. Pour Halloween, on se déguise en pirate, quoi. Donc ça existe toujours, ça. Oui.
Et en copiant les dessins de celui qui fut l'illustrateur de l'île au trésor, N.C. Wyeth, qui était le plus grand illustrateur de son temps. Ce qui est marrant de voir, c'est que les films à Hollywood, les premiers films de pirates, reprenaient en fait les dessins et leur redonnaient vie de la même manière que le Robin des Bois avec Errol Flynn reprend les costumes, les couleurs, etc.
Et les dessins de
des illustrations de Wyeth, ce qui fait que quand les gens ont vu ces films, s'ils étaient un peu âgés, ils refaisaient un bond dans leur enfance parce qu'ils avaient vécu dans cet imaginaire-là.
Avec Douglas Fairbanks, ce genre d'univers. Michel, justement, est-ce que c'est Stevenson qui vous a amené à la passion pour les flibustiers, ou est-ce que c'est les flibustiers qui vous ont amené à Stevenson ?
Non, ma passion pour les flibustiers, c'est dans la veillée des chaumières, quelque chose qui s'appelait la fiancée du vautour blanc d'un certain A de la Motte. Je n'ai toujours pas ce A, qu'est-ce qu'il retrouve, qui était donc illustré de gravures absolument effroyables. Je racontais tout à l'heure cette illustration qui me filait des cauchemars affreux, donc évidemment qui me faisait le lendemain matin poursuivre le récit avec passion, de flibustier qui faisait suer son or à un hidalgo en le boucanant gentiment. Donc on voyait les yeux exorbités, la bouche ouverte sur un cri de douleur. Ça a été mon premier contact avec les flibustiers, et je pense que tout le reste en a découlé, mais enfin on n'est pas non plus comme ça impunément au bord de la mer, dans la baie de Morlaix, où il y a eu tant de voyageurs, de marins, de corsaires, de rêveurs de royaumes qui sont partis de là. Enfin, je veux dire, tout ça faisait un mélange. Et puis, il y a eu les gravures de Treasure Island, de l'illustré, parce que les hasards de la vie avaient fait qu'une vieille dame voisine avait mis dans le grenier chez nous ce qu'elle avait pu sauver de sa bibliothèque. Son mari était marchand de bois précieux, avait dû voyager aux États-Unis, et j'ai vu L'île au trésor dans sa version Scribner américaine avant de savoir lire, et c'était les illustrations de Wyeth. Et en plus, d'ailleurs, j'ai rêvé à des tas d'aventures à partir de ces images qui sont absolument prodigieuses, avant de savoir lire et de découvrir dans la bibliothèque verte L'île au trésor. Et je vous dis pas l'affreuse déception que ça a été, parce que je dis quoi, c'est que ça. Moi, j'avais rêvé à des milliers d'histoires à partir de ces images. Le bonheur que j'aurais eu, c'est de retrouver un jour en Californie, alors que j'étais sur les pas de Stevenson, que je venais de découvrir en plus où était réellement L'île au trésor. J'ai trouvé la lettre où il disait c'est là, Point Lobos, Californie, la presqu'île en dessous de Carmel, où il se promenait avec le fils de celle qui allait devenir sa femme en lui racontant des tas d'histoires de pirates. Je descends à Los Angeles pour continuer mon enquête sur Stevenson et sur Jack London, parce que ça a donné un livre qui s'appelle La Porte d'Or. J'arrive à la Huntington Library, et sur la vitre il y avait un poster, parce que j'avais perdu ce livre et je savais même plus quel était le nom de l'illustrateur, rien. C'était un truc comme ça, des rêves de l'enfance, à se demander s'il avait existé. Je vois Pew l'aveugle s'avançant en tapant le sol gelé de sa canne comme ça. Mon Piou l'aveugle, de mon livre d'enfance. Et c'était la réédition du centenaire par Scribner qui avait sorti un petit nombre d'exemplaires et qu'ils ont tiré à des dizaines de milliers parce que c'était un succès qu'ils n'imaginaient pas. Et ils ont réédité tout Wyeth à ce moment-là. Je ne sais pas si vous imaginez le choc que ça a pu être. Et mon bonheur, ça a été l'année dernière de publier chez Webeck un album sur toute l'œuvre de Wyeth. C'est comme si je bouclais une boucle comme ça de mon enfance, en quelque sorte, en contribuant à ressusciter un peu cet illustrateur génial. Donc voilà, c'est parti de tout cet imaginaire-là, en fait, mon histoire de flibustier. Et puis après, ça a été l'opportunité que m'a donné Jean-Pierre Sicre, qui était le créateur des éditions Phébus. Il m'a donné cette liberté de créer chez Phébus. Je crois franchement aujourd'hui, c'est la plus belle collection d'aventures maritimes qui ait jamais été créée en France, et notamment de rééditer des piles et des piles de mémoires, de corsaires, de pirates, de flibustiers, etc. Ce qui m'a amené aussi à dépasser l'émerveillement de l'enfance, à étudier ce qui avait été en jeu dans cette aventure-là. Parce qu'il y a une vraie question, c'est les pirates, il y en a toujours eu. Les pirates ont fait peur jusqu'au XVIIe siècle. Et les pirates font peur aujourd'hui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé un peu au XVIe, au XVIIe et jusqu'à la Révolution française, disons à peu près ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fascine à ce point dans cette période-là et que naisse le mythe dans cette période-là? Il faut savoir, par exemple, qu'il y a eu deux femmes pirates très célèbres, Anne Bonnet et Mary Read, qui ont fasciné les gens en leur temps. Et si vous regardez, j'ai fait une grande exposition en Bretagne il y a bien des années sur les pirates comme ça. Et si vous comparez le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, et le frontispice d'une édition, de l'édition que qu'avait Delacroix dans son atelier du livre sur Mary Read et Anne Bonnet. Vous voyez une femme pirate torse nu, les pieds posés sur un monceau de cadavres, brandissant un drapeau qui n'est pas le drapeau français, mais le drapeau pirate et un sabre. Il s'est inspiré de ces femmes pirates pour La liberté guidant le peuple. Et on a le résumé de ce qui fascine à ce moment-là, parce que c'est pas un mythe qui est né bien longtemps après. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en plein XVIIIe siècle, quand on publie les quand Huxmelin qui a été, disons, bon, médecin de la flibuste, publie son livre, c'est un énorme succès tout de suite. Le mythe est immédiat. C'est pas quelque chose qui apparaît après. C'est quand paraissent ces livres-là que le mythe se déploie. Donc avant la Révolution française. Alors qu'est-ce qui se joue dans ce, pourquoi il y a mythe? Parce qu'en fait, il y a télescopage de deux choses contradictoires et opposées dans la même figure. C'est-à-dire, le pirate épouvante par sa cruauté, sa violence, cette manière de brûler sa vie, de brûler l'or qu'il gagne, etc. Donc, à la limite, on pourrait dire une figure satanique. Et le pirate fascine parce que il est le premier qui annonce la Révolution française quelque part, et les valeurs de la Révolution française, l'idée d'un renversement du monde, d'abattre les puissants, l'idée d'un monde à l'envers, et donc une figure radicale, extrême, fulgurante, puisque son horizon est la mort, mais en même temps il y a une sorte d'absolu de la révolte qui s'exprime en même temps dans cette figure. Et cet absolu de la révolte et de rêve d'un autre monde. Et cette extrême violence et cette extrême cruauté dans la même personne, c'est ça qui fascine. Et moi, ça a été toute ma recherche à partir de là, quand j'ai découvert la dimension religieuse de la piraterie, le fait que les flibustiers déjà avant étaient tous protestants, que c'est dans la guerre contre l'Espagne, entre catholiques et protestants, que s'invente la guerre de partisans, en fait. Les premières figures de la guerre de partisans sont les flibustiers contre les flottes de l'or espagnoles, et les pirates prennent la suite. Et là, quand on creuse après, qu'on s'aperçoit que, en fait, et c'est une histoire absolument incroyable, ça, c'est quand j'ai édité le livre de Defoe que j'ai commencé à faire ces recherches-là. Il y a un historien en Angleterre, c'est Christopher Hill, qui est mort maintenant, mais qui est une sorte de George Duby, en fait, un des très grands historiens anglais, spécialiste de ce qu'on appelle les dissenters, les dissidents anglais, l'extrême gauche de la Révolution anglaise. Qui étaient des acharnés du tract, ce qu'on appelle les pamphlets à l'époque, qu'on peut appeler les tracts aujourd'hui, qui n'arrêtaient pas, d'ailleurs dans Kikin et Cromwell, par les revendications radicales qu'ils pouvaient avoir, qu'on pouvait dire quasiment pré-communistes. Tout d'un coup, ces dissidents que Christopher Hill avait étudiés, réétudiés, sur lesquels il avait publié des dizaines de bouquins, disparaissaient. Et lui, comme tout le monde, se disait, bon, ben, ils disparaissent, ils sont rentrés dans le rang, c'était plutôt des artisans, des autodidactes, voilà, ils ont été mis au pas par Cromwell, et puis, bon, ben, on n'entend plus trop parler. Et un jour, il lit par hasard le livre du Capitaine Johnson. Et c'est lui qui, le lisant, dit, mais enfin, c'est quand même le style de Defoe, ça, je reconnais même des tournures de ses pamphlets, etc. Donc, c'est l'histoire du fil qu'on tire, comme ça. Puis il s'aperçoit, au bout d'un moment, que ça ne peut être que de Defoe, qui était un menteur frénétique d'un côté, mais qui était un militant dissident radical de l'autre, mis plusieurs fois au pilori pour ses opinions, mais qui avait, disons, un rapport au pouvoir assez étrange, puisqu'en même temps, il dénonçait tous ses potes, etc., en se disant, mais de toute manière, il se ferait avoir, donc il vaut mieux que je puisse apparaître comme du côté du pouvoir pour continuer secrètement à publier mes pamphlets, etc. Tout un personnage compliqué, en partie double comme ça, et qui avait en plus écrit des tas de récits de voyage, dont un à Madagascar qui faisait absolument autorité, il n'a jamais mis les pieds à Madagascar. Donc il s'était attiré une réputation de menteur, comme je disais tout à l'heure. Il continue à tirer ça, et c'est ce qui lui met la puce à l'oreille. Il dit, mais enfin, Defoe était un dissident. Ce qu'il donne comme texte là, ou comme déclaration de pirate, ça sent bien son dissenter anglais. Et donc il fait ce qu'il n'avait pas fait jusque-là, parce que tous les spécialistes, et même quand on lit Gilles Lapouge, qui est un livre formidable, hein, que j'ai eu le bonheur de rééditer, qui était oublié, que j'ai eu le bonheur de rééditer en édition Phoebus, c'est un livre génial parce que toute sa documentation est fausse, et en même temps et il raconte des histoires qu'il imagine à partir d'une documentation fausse et avec une intuition juste. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'à l'arrivée, il avait bien pigé ce que c'était. Sauf qu'il dit, ça annonce les philosophes des Lumières. Non, c'est à la conclusion de l'effervescence intellectuelle des dissenters anglais. Mais il y a des rapports étonnants entre la Révolution anglaise, de toute manière, et les valeurs du 18e, quoi. Et pour tous ces auteurs, et Lapouge démarre là-dessus, sur les pirates n'ont pas laissé de traces. Et cette figure comme ça, de l'immense silence des pirates, le sillage de sang qu'ils laissent derrière eux et l'absence de texte. On peut faire de magnifiques pages là-dessus, mais c'était un petit, tout le monde s'accordait un peu là-dessus. En dehors du Capitaine Johnson, il n'y avait pas grand-chose. Des flibustiers, oui, mais des pirates, non. Et il se dit, et si j'allais voir de peu plus près en Jamaïque, dans tous les endroits où se sont retrouvés ceux qui sont devenus des pirates anglais. Et là, il s'aperçoit tout d'un coup, et il ne s'en était pas douté, que ces fameux dissidents radicaux que Cromwell, dont Cromwell voulait se débarrasser, il s'en était débarrassé en les expédiant dans la Caraïbe et qu'ils se retrouvaient là, toujours aussi féroces fabricants de tracts, donc trouver des trucs insensés dans une île. Comme ça, ils exigent, par exemple, du gouverneur que soit construite une synagogue. Alors, le mec, il dit, attendez, il n'y a pas de juifs. Non, mais c'est raison de plus, c'est pour marquer que vraiment on est ouvert à la différence à l'expression des différences religieuses. Et je me dis, bon, ben, allez, hop, on va construire une synagogue. Alors, il s'était installé comme souvent instituteur ou petit planteur, comme ça. Et enquiquinant tout le monde avec leur théorie, et arrive la grande plantation du sucre. Avec les esclaves. Alors là, des esclaves pour ces dissidents radicaux qui professaient des choses comme aucun homme n'est né avec une selle sur son dos et aucun homme avec des éperons pour le monter, enfin des phrases de ce type-là. Et donc tout homme était nécessairement égal aux autres. Il était absolument impensable d'accepter l'esclavage. Il y avait une autre raison puissante, c'est que l'esclavage les ruinait, eux, comme petits planteurs. Donc dans un premier temps, il suscite des révoltes d'esclaves. En libère et en installe d'ailleurs dans une petite île qui s'appelle Eleutheria, où il y aura une sorte de république d'esclaves libérés comme ça. Et puis, quand ils se trouvent ruinés, se font pirates. Et se font pirates en amenant avec eux leur idéologie, les revendications égalitaires, et c'est là
d'où le partage.
Voilà, qu'on voit s'élaborer ce qui était déjà un peu le cas au temps de la flibuste, mais là qui devient radical au moment de la piraterie, c'est le contrat qui lie les membres d'un équipage, la définition de la hiérarchie des salaires, enfin des rémunérations. En général, pas plus de 2,5 d'écart entre le capitaine et l'équipage. Le quartier-maître est en fonction de contre-pouvoir s'il arrive que le capitaine ne respecte pas le contrat. Obligation de manger tous ensemble, pas le droit pour le capitaine de manger à part des mets choisis. S'il y a conflit, convocation par le quartier-maître d'une assemblée générale. Et c'est l'équipage en assemblée générale qui décide de l'attitude à tenir envers le capitaine si celui-ci n'a pas respecté les termes du contrat. S'il y a conflit, de la même manière, il se règle par assemblée générale et plus souvent si, comme il ne peut pas y avoir de conflit à bord d'un bateau parce que on vit sous des conditions extrêmes et donc un conflit à bord d'un équipage, il est sûr que le bateau court à sa perte. Donc en général, on abandonne la partie minoritaire quelque part dans un port sur une île, enfin bref. Et il n'y a de combat autorisé qu'à terre, jamais à bord. Création de la première sécurité sociale, ce qui a fait dire à certains que le régime le plus démocratique et le plus égalitaire de l'époque, c'est celui des pirates. Il y avait une cagnotte gérée par le quartier maître avec la définition des sommes versées. Alors, vous perdez votre main droite, si vous êtes droitier, vous touchez tant, si vous êtes gaucher, vous touchez tant, un œil, etc. Tout était répertorié. C'est absolument extraordinaire, la précision. Et maintenant, on en sait beaucoup plus qu'à l'époque où il commençait ses enquêtes, parce qu'il y a un autre qui vit toujours, alors lui qui est Marcus Rediker, grand historien américain, qui a consacré sa vie jusqu'à maintenant, et avec les moyens qu'ont les Américains, c'est-à-dire mettre tous les étudiants sur le coup. Lui, une autre idée, c'était, il y a un moyen pour savoir ce qu'il en est, pour quantifier tout ça, c'est de reprendre systématiquement les actes des procès de tous les ports sur la côte américaine. Et à partir de là, il a pu reconstituer quels étaient les équipages, les hommes qui passaient d'un équipage à un autre. Donc je crois que le livre est sorti maintenant en France.
Chez Libertalia, oui.
Oui, parce que ça s'appelait Between the Devil and the Deep Blue Sea, qui veut dire non pas en le diable, entre le diable et la mer profonde, mais entre le marteau et l'enclume, en fait, et qui est sorti. C'est un livre qui est vieux de plus de 20 ans, mais qui est un livre absolument de référence quant à cette étude. Puis il a continué depuis. On arrive à des quantifications extrêmement précises. Par exemple, que près de la moitié des équipages pirates étaient noirs. Qu'il y avait beaucoup plus de femmes qu'on imagine, que pas seulement Anne Bonnet et Reed. Il y a depuis, d'ailleurs, c'est marrant, c'est dans l'après 68 que tout d'un coup le mouvement gay a commencé à étudier la piraterie, à découvrir que c'était de ce point de vue-là une société de tolérance et qu'il y en avait aussi une bonne quantité. Je cherche depuis un moment le nom d'un pirate extrêmement connu qui avait comme manie de s'isoler pour faire du crochet, mais qui était d'une rare cruauté. C'est quelqu'un de très... Ça m'échappe dans l'instant.
Du crochet avec son crochet ou
Non, du crochet de la petite dentelle. Et c'était certainement une femme.
C'est pas Lolonais.
Ah non, Lolonais, c'était un flibustier. C'était très cruel. Pas un pirate. Et lui, d'une cruauté pas possible. Non, c'était une pirate d'origine anglaise, en fait, mais... Ça va me revenir, mais c'est quelqu'un d'aussi connu que Barbe Noire. Enfin, c'était à tout coup une femme. Et puis le mouvement noir américain a plongé là-dessus. Et il y a un bouquin qui est en préparation sur les pirates, les noirs dans l'histoire de la piraterie. Ce qui fait qu'on est dans une phase, en fait, où on est en train de redécouvrir tout un pan comme ça de cette histoire qu'on connaissait mal, surtout en France, parce qu'en France c'est plutôt des amiraux à la retraite qui font des bouquins en copiant les amiraux à la retraite avant, ce qui fait qu'on arrive à des situations absolument insensées de biographies écrites sur des personnages qui n'ont jamais existé.
Michel, on va voir avec Johan et Stéphane, eux comment justement ils ont revisité l'imagerie du pirate et de la flibuste, parce que vous n'êtes pas contenté d'écrire des livres de pirates ou de piraterie, mais vous y avez ajouté chacun un grain de sel personnel, en quelque sorte, Johan.
Oui, enfin, même si, comme je disais tout à l'heure, les sources étaient les mêmes.
Les codes restent les mêmes.
Ouais, mais vous citiez Martus Redeker, voilà, je me suis inspiré de ces bouquins qu'on traduit tout récemment pour savoir comment ça fonctionnait, quelles étaient les réalités. Et j'ai juste, sur ces réalités de la piraterie ou de la flibuste, ajouté mes univers de fantasy. Voilà, mais c'est vraiment, j'ai vraiment fait un décalque, on va dire, de la première période du XVIIIe siècle et des vraies réalités, voilà, de ces mondes-là. Et je les ai transposées, effectivement, alors là, dans un autre univers avec où la magie fonctionne. Mais j'ai vraiment tenu, c'était le pari de la série qui s'appelle Le Tempestaire, à coller pour la partie, on va dire, marine, si je peux dire au sens large, à une vraie réalité. Parce que quelque part, elle était aussi tellement méconnue que quand on voit tout ce que Michel vient d'expliquer, c'est presque tout aussi fantastique, parce qu'on sort effectivement de ce qu'on croit connaître. Voilà, quoi.
C'est une collection pour la jeunesse, on en revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que la référence aujourd'hui, peut-être pour une certaine génération, c'est uniquement Pirates des Caraïbes. Est-ce que justement le livre permet de leur faire découvrir autre chose, de leur faire justement un peu redécouvrir ce que vient d'évoquer Michel?
Je ne peux que l'espérer, parce que
c'est le but en tout
si
cas.
Si je peux avoir même qu'un tout petit peu du succès de... et ça, bon, je le saurais, bon, encore pas assez de recul, puisque bon, le livre est sorti il y a à peine 2-3 semaines, mais... En tout cas, si je peux, au-delà de l'histoire, voilà, tout ce que j'ai inventé, effectivement, si on accepte la magie, tout le reste est vrai. Si les jeunes lecteurs peuvent se rendre compte, pas tant dans le premier tome que dans le deuxième, qui lui se passe quasi exclusivement à bord de différents navires, se rendre compte, voilà comment ça passait aussi, voilà quel genre de figure pouvaient être ces fameux terribles pirates et flibustiers, oui. Je serais vraiment très content, mais...
Il y en a un qui a réussi le pari, apparemment, c'est Stéphane, parce que, visiblement, ça a touché au moins les jurys, parce que le livre est auréolé de prix, avec là aussi, une manière de revisiter l'imagerie de la piraterie et de la flibuste, avec autre chose. On est dans le fantastique, dans la SF.
En fait... Mais moi, c'est pareil, quand j'ai voulu chercher mes sources, je suis allé au plus simple et au meilleur. Donc sur les 15 livres
sur lesquels j'ai travaillé, dans lesquels j'ai puisé mes informations. Il y en a 5 qui ont été écrits par Michel. Donc voilà, dans la bibliographie à la fin, les 5 premiers livres ont été écrits par Michel ou en collaboration. Moi, effectivement, comme c'est un livre dit de science-fiction et qui voulait, je voulais mélanger la grande geste pirate et flibustière des Caraïbes à des effets de paradoxe temporel, j'avais absolument besoin d'être, comme j'allais prendre de grandes libertés avec l'histoire, il fallait que je sois extrêmement rigoureux sur le moment historique avéré où ça allait se passer. Donc j'ai cherché très longtemps quel pouvait être mon point d'entrée dans l'histoire réelle. Et pour moi, le point de passage, c'était la prise de Tortuga par les Français en 1640.
Parce que l'idée, c'est que donc le navire sur lequel voguent vos pirates, il a une particularité,
c'est qu'il tire pas du temps.
Voilà, il tire du temps. Concrètement, ça veut dire quoi ?
Concrètement, ça veut dire qu'il génère des paradoxes temporels et qu'il pille des navires qu'ils ont déjà pillés. Donc, il génère des boucles de temps et les équipages qu'ils affrontent ne savent pas qu'ils sont déjà morts. Mais bon, cette technologie-là leur a été imposée. C'est un authentique capitaine flibustier du début, enfin de la première moitié du XVIIe siècle, qui se retrouve confronté à des phénomènes extérieurs qu'il ne comprend pas. Mais pour lui, il est un marin de son époque. Il participe à la prise de la tortue organisée par le futur gouverneur Levasseur. J'ai estimé que mon personnage devait appartenir à cette flottille française qui prenait la tortue et qui allait en faire ce bastion pirate au cœur de la nasse espagnole pendant une petite cinquantaine d'années.
Et bastion, moi, je ne vais pas te ruiner tout d'un coup tes certitudes, qui en tant que tel n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu plus de 5 bateaux à la tortue, contrairement
non, absolument,
à ce qu'on croit.
Tout à fait.
Oui. La base des flibustiers, c'était Petit Goave sur le continent haïtien, en fait.
Oui,
quoi.
Mais
grande a été ma surprise aussi de découvrir que après l'assassinat de Levasseur,
ça a disparu, c'est tombé très vite.
Oui, il y a eu un petit moment protestant, et Levasseur était protestant.
D'abord protestant et après dictateur, en fait.
Oui, mais ce n'est pas forcément contradictoire. Mais quand on va là-bas, les courants sont tellement épouvantables autour de l'île
que
c'était vraiment pas pratique pour s'y arrêter. Ça servait récemment sous Aristide de base pour le trafic en fait de drogue par des petits sous-marins qui partaient sur les côtes de Floride depuis protégés par les forces du président Aristide. Ça partait en Floride depuis la tortue. Donc il y a eu un moment de piraterie, mais qui est aujourd'hui.
Est-ce que c'est pas aussi une manière dans ce livre d'arriver à impulser à un récit de science-fiction un rythme de roman d'aventure?
De toute façon, oui. Enfin, c'était pour moi, c'était clairement l'envie,
ou l'inverse.
L'envie d'enfin écrire un livre qui me permette de revisiter l'île au trésor et enfin tous mes grands bouquins.
C'est Albator en même temps. Non.
Mais absolument, tout à fait.
C'est Albator en science-fiction. Moi, c'est quand j'étais gosse, c'était les cométaires de Williamson, etc. Le space opera retrouve tout ça, les pirates, les vaisseaux sont des vaisseaux interstellaires simplement. Comme j'ai une fille, j'ai suivi Albator avec passion, moi aussi, et qui retrouvait, y compris d'ailleurs ce côté ambigu, il y a un jeu avec la noirceur, etc. C'est pas le machin cucu-gnan-gnan qu'on trouve parfois dans ce genre de série. Moi, j'aimais bien.
Non, mais je confesse que mon personnage féminin principal est immédiatement influencé par le personnage féminin qu'Albator garde dans sa cabine. Donc oui, bien sûr, Albator, grande figure de SF pirate, c'est clair. Ouais.
Johan, c'était pas envisageable d'écrire un véritable roman de piraterie? Il fallait forcément y glisser quelque chose d'autre, un petit supplément d'âme?
Mais je ne m'imagine pas, encore peut-être, je ne présage pas de l'avenir, mais ça me paraît beaucoup plus difficile d'écrire un roman de pure et authentique piraterie. Pour l'instant, j'ai toute cette souplesse et ces facilités que me donne le monde de la fantasy pour pouvoir l'aborder. Mais
c'est parce que c'est le genre aujourd'hui, la fantasy, qui se prête le plus au souffle épique, justement, qu'on retrouvait dans la piraterie.
Oui, la fantasy ou le space opéra, effectivement, comme le rappelait Michel. Oui, je pense que voilà deux genres qui me paraissent tout à fait en totale adéquation avec ce vrai souffle épique, ah, oui, complètement.
Et tu crois que les grands romans de la piraterie ont été écrits, tout simplement, et
Ça les décourager tout le monde en disant ça.
Non, mais il y a quand même une belle collection de romans qui ont pu être écrits au 19e. Comme ça, je crois que trouver un autre angle, trouver une autre manière, montrer qu'on a compris quelle est l'essence du mythe et le transposer à notre milieu, le rend vivant, tandis que sinon on rentre dans les costumes un peu engoncés du truc historique. Puis là même ça a été fait, je ne sais pas si vous avez lu Marie des Îles de Robert Gaillard, dans la grande fresque flibustière, ce livre est absolument extraordinaire.
De toute façon, je crois qu'on peut être très mal limité.
Que faire après ça, il vaut mieux trouver un autre biais pour redonner vie en fait.
Et finalement l'irruption des mondes imaginaires dans cet univers, ça ne vous choque pas?
Non, moi ce qui m'a passionné à un autre univers, d'abord c'était de rééditer. Il faut voir quand même que quand j'ai commencé cette collection, tous ces livres-là, Le Père Labat, Aix-Melin, tous les Dampierre, tout ce que j'ai réédité n'existait plus. Donc déjà, c'était ressusciter tout un truc. Retraduire, souvent, c'est traduit n'importe comment. Faire une édition critique en situant les choses, ça m'a passionné. Et après, ce qui m'a passionné, c'est quand j'ai compris qu'en fait, il y avait une pensée nouvelle à avoir sur ce qu'avait été la flibuste d'un côté et la piraterie, qui est très différente de la flibuste en réalité, puisque l'une se déploie dans les Caraïbes et l'autre se déploie dans l'océan Indien, dans une espèce d'immense... C'est plus du tout les mêmes bateaux, c'est pas chasser des Caraïbes et ne pouvant plus y revenir puisqu'ils sont persona non grata. Flibustier, on avait des lettres de course, on pouvait revenir au port, en Guadeloupe, etc., si on était français. Là, pirate, c'est toute une zone qui est interdite. Donc ils s'installent...
Mais hors la loi.
Ils s'installent dans les Bahamas, hors des Caraïbes, cherchent un territoire avec qui commercer comme avant ils pouvaient commercer avec la terre ferme espagnole en fait, puisqu'ils pillaient les Espagnols et en même temps traitaient avec les Espagnols d'autres endroits à bas prix les produits qu'ils avaient capturés.
C'est ce qu'on appelait le commerce au bout de la pique, je crois, quelque chose comme ça, non ?
Le commerce au bout de la pique, ouais. C'était arriver à un endroit, dire voilà, parce que les Espagnols n'avaient pas le droit de commercer avec les Anglais ou les Français, qui n'étaient pas nécessairement des flibustiers, mais ils n'avaient pas le droit de commercer. Tout le commerce devait se faire avec l'Espagne, sur lequel était prélevé le quin royal, donc 20% de taxes à l'exportation et 20% à l'importation. Donc il manquait de tout et il payait tout les yeux de la tête. Et quand des bateaux anglais, par exemple, arrivaient en disant « on a des produits à vendre » ou « on a une cargaison d'esclaves à vendre éventuellement », le gouverneur commençait par dire plutôt mourir que de céder, puis après discrètement, en général, disait « bon, écoutez, vous m'envoyez 3 boulets de canon là, constatables dans les machins, et puis je dirais que vous m'aviez odieusement contraint, etc. » Et une fois cette formalité réglée, il négociait et pouvait acheter des produits à bas prix. Mais même les flibustiers, il y a des situations étonnantes où les flibustiers, on les voit qui pillent, je sais pas, Maracaibo, un truc comme ça, et ils vont à 3 jours de mer vendre ce qu'ils ont pillé là à un autre endroit où les Espagnols sont tout heureux d'accueillir ce qui leur manque et qu'ils achètent à bas prix. Et ils savent bien que ce sont des formants qui ont assassiné d'autres Espagnols ailleurs, mais bon...
Le commerce, c'est le commerce.
Ce commerce, c'est le commerce.
Et puis le pragmatisme, parfois, fait force de loi face aux difficultés...
Oui, mais alors, quand tout ça se ferme, de toute manière, à ce moment-là, où vendre ce que l'on a capturé ? Eh bien, sur les côtes sur les côtes américaines. Parce que à ce moment-là, les Américains, qui veulent se séparer de l'Angleterre, sont soumis au même principe de commerce exclusif avec l'Angleterre, avec 20% de taxes à l'arrivée et 20% de taxes au départ. Donc quand les pirates arrivent, ils sont accueillis à bras ouverts dans les ports anglais, même s'il y a des, dans les ports américains, même s'il y a des gouverneurs anglais encore qui sont là, qui protestent et tout, les gens ont trop besoin de produits et les achètent. Et en même temps, ils ne peuvent plus capturer les bateaux dans les Caraïbes, parce que les Espagnols ont évolué, ont des bateaux qui sont mieux à même de leur résister. Donc ils capturent à ce moment-là des navires de la Royal Navy anglaise, parce que les équipages sont au bord de l'insurrection compte tenu de leurs conditions de vie. Il n'y a quasiment jamais eu de combat entre la Royal Navy et les pirates. En général, quand un vaisseau pirate arrivait, l'équipage s'emparait, qui était soumis à, enfin, qui le système de recrutement à cette époque-là, c'est ce qu'on appelle le press gang, c'est-à-dire en gros, vous descendiez chercher votre baguette de pain le dimanche, vous, au coin de la rue, vous preniez un coup de gourdin entre les oreilles et vous vous réveillez à bord d'un bateau. Vous saviez que votre femme et vos enfants allaient mourir de faim ou que la femme finirait prostituée et les enfants dans un orphelinat et que vous ne reverriez plus personne. Donc c'était des gens au bord de l'émeute en permanence qu'il y avait comme équipage de la Navy. Et c'est là qu'a été inventé le fameux chat à neuf queues, etc., pour terroriser les marins, c'est-à-dire des fouets avec neuf lanières et des petites billes de plomb dessus pour qu'ils sentent leur douleur si jamais ils se rebellaient. Autant dire, quand ils voyaient un navire pirate qui arrivait, ils s'emparaient des officiers, il y avait procès immédiatement pour savoir si on les pendait tout de suite ou bien si on agrémentait ça quand même de quelques compensations, tortures raffinées, etc., en souvenir de ce qu'ils avaient subi. Mais les récits sont... Alors là, il y a des dizaines et dizaines de récits comme ça. Ça va même affoler complètement la Navy, parce qu'ils n'ont aucun moyen de résister. Et on a des textes étonnants de gouverneurs anglais qui refusent de rentrer à Londres en disant « Non, attendez, moi je reste ici. Si j'y vais, à tous les coups, je vais me faire capturer et je vais y rester. Je veux pas. » Donc, ces pirates basés dans les Bahamas vendent leurs produits sur les côtes américaines et vont les chercher avec ces navires qui sont capables, à la différence des petites barques flibustières, qui sont capables de traverser donc l'Atlantique sur les côtes africaines, puis descendre, passent le cap de Bonne-Espérance. Et là, il y a l'immensité de l'océan Indien, il y a Madagascar, il y a la Réunion, il y a toutes ces îles où, en gros, il n'y a quasiment personne, où vont s'installer des républiques pirates et ils vont s'attaquer à ce moment-là aux flottes sans défense de tout l'océan Indien et toutes ces richesses, parce que c'est bien joli, mais il manque de haches, de quoi s'installer, des produits les plus ordinaires. Ils croulent sous l'or, les pierreries, les choses qu'ils capturent dans les bateaux.
Ça ne sert strictement rien sur un bateau, en fait.
Mais non, mais donc, du coup, ils retraversent l'Atlantique pour aller chercher, en payant avec ça, chercher tous les produits de nécessité, de première nécessité dont ils ont besoin, sur les côtes américaines aussi, d'où ce rapport. C'est pour ça que quand il y a procès, c'est toujours dans les ports où il y a eu à un moment donné, pour telle ou telle raison, le gouverneur anglais a eu des forces suffisantes pour en arrêter un et le coffrer. Donc c'est une mine d'or qui se trouve dans ces procès-là. Quoi. Donc moi, c'était le bonheur de pouvoir proposer une vision nouvelle, complètement nouvelle de la piraterie et de la flibus à partir de cette dimension de rébellion, justement, c'est ça qui me fascinait. Mais au-delà de ça, c'est vrai que je ne me verrais pas aujourd'hui écrire un roman qui se situerait à l'époque de la piraterie. J'ai l'impression que ils ont été écrits. Par contre, que ça irrigue d'autres genres littéraires, que ça se retrouve dans d'autres espaces, dans d'autres lieux, ça c'est épatant, parce que ça montre que l'universalité du mythe, le fait que vous gardez cette base de la transgression et du télescopage, les deux aspects, vous le transposez dans n'importe quoi, ça fonctionne. Donc c'est là où ça prouve dans les faits que la présence encore du mythe aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir effectivement comment les gamins, je me souviens quand ils regardaient Albator, ils étaient scotchés au truc. Bon, vous voyez bien que ça remarche à tous les coups. Surtout que les parents, ils rêvent que d'une chose, c'est bien sûr de se débarrasser de... Les enfants, c'est de se débarrasser de leurs parents. Et donc,
en les pendant où ils courent,
ben, ils se disent, et si, point de suspension, et là, il y a une société par bien des aspects infantiles en même temps, enfin d'enfants qui rêvent un monde comme ça, qui se débarrasse de toutes les contraintes du monde ordinaire, quoi. Ce dont ne cesse de rêver quand même un gosse, faut bien dire. Faut voir ce que c'est qu'un gosse. Il est parent sur le dos, il a les instincts sur le dos. On lui apprend, il est dans une posture d'apprentissage permanent. Il faut bien ça. Je suis pas en train de. Mais en même temps, le gosse, en même temps, il rêve quand même à des échappées, à des transgressions fabuleuses et des choses comme ça. Donc il trouve le bonheur dans ces livres qui sont fortement à déconseiller. Voilà.
Allez, on avait hissé le drapeau noir pour ce café littéraire. On va le redescendre petit à petit. Et puis, voilà, vous savez maintenant que vous pouvez faire votre choix entre la tradition et puis... les évolutions, les changements, les métissages aussi de genre et cette nouvelle génération qui finalement a décidé de revisiter le mythe de la piraterie et d'en faire quelque chose de nouveau et d'original, parce qu'effectivement peut-être que c'était un sentier battu, rebattu, et qui maintenant par ce biais-là va pouvoir repartir sur une nouvelle vie, sur une nouvelle génération. Et puis peut-être que ou Stéphane ou Johan, dans quelques décennies, vous serez les nouvelles références du genre.
Il faudra déjà qu'on finisse par réussir à digérer tout le travail qui a été fait, quoi.
Et puis merci évidemment à Michel Lebris pour toutes ces explications, et on vous écouterait des heures, vraiment. Mais là, il faut qu'on laisse la place parce qu'il y a encore un café littéraire derrière.
C'est la France Inter, mais demandez ça, j'ai fait 25 heures.
Alors là, on les a pas. Honnêtement, on les a pas, mais... Mais en tout cas, voilà, vous retrouvez les auteurs sous la bulle du livre. Un petit mot sur Fabrice Collin, toutes ses excuses, mais c'est vrai qu'il avait un impératif horaire pour repartir, puisqu'effectivement, c'est le dernier jour du festival aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'est pas parti fâché, et c'est juste qu'il fallait qu'il s'en aille, c'est tout. Et puis, vous retrouvez Johan, Stéphane et Michel Lebris sous la bulle du livre pour aller continuer la discussion, parler de leurs livres, etc. Pourquoi pas les acheter et leur faire dédicacer. Merci beaucoup.